École normale supérieure, savoir en multimédia.
Merci Georges Steiner d'avoir répondu à notre invitation. C'est un immense plaisir de vous accueillir dans cette salle. Vous vouliez un lieu solennel. C'est notre salle des actes, puisque vous avez conçu vos conférences comme autant de leçons consacrées au rapport entre poésie et philosophie. Depuis le premier affrontement, le plus indécis peut-être, celui qu'on trouve chez Platon, dans plusieurs dialogues, jusqu'à Paul Celan et Paul Valéry. Trois conférences auront lieu dans l'école, données par vous, mercredi à 17h30 dans cette même salle et vendredi également à 17h30, salle des actes. Et ces conférences, ces leçons données par Georges Steiner s'inscrivent dans une réflexion au long cours. Elles auront également un prolongement, en particulier dans la conférence Nobel que vous allez donner à Stockholm juste après avoir quitté Paris. Conférence intitulée, enfin, une sémantique de la mort. C'est évidemment aussi l'occasion de rappeler les liens que vous avez avec l'École normale supérieure, parce que vous aviez répondu à notre invitation déjà l'année dernière dans le cadre de la journée tragédie qu'avaient organisée Donatien Gros et Laure Adler. Et la conférence que vous avez prononcée a marqué votre auditoire. Et à la suite de ça, nous avons souhaité très vivement vous inviter. D'ailleurs, cette conférence sera publiée dans le volume qui sera consacré à, qui rassemblera les présentations prononcées lors de ce colloque. La contribution de Georges Steiner s'appelle « La danse tragique ». Comme c'est l'usage, je voudrais vous donner quelques indications sur le long chemin sinueux, inattendu, qui d'une certaine façon a amené Georges Steiner jusqu'à nous aujourd'hui. Vous connaissez tous son œuvre. Vous savez que Georges Steiner est né à Paris, famille d'origine autrichienne, et qu'il a été élevé dans au moins trois langages qui ont été véritablement formateurs de sa personnalité et surtout de sa personnalité critique. Georges Steiner a quitté et sa famille ont quitté la France avant l'entrée des Allemands à Paris. Et Georges Steiner a vécu à New York donc pendant de nombreuses années. Il est, je pense, inutile ici d'évoquer de manière détaillée le caractère tout à fait dramatique des événements qui ont conduit à ce départ. Je citerai simplement ce que Georges Steiner déclarait au Guardian en 2001. J'ai passé ma vie à penser à la mort, la mémoire et l'Holocauste. Donc à New York, ce sont les études secondaires et puis ensuite les études supérieures, d'abord à Chicago, ensuite à Harvard. Et puis, de retour en Europe, à Oxford, où Georges Steiner a soutenu son doctorat. A suivi une carrière universitaire extrêmement riche, à Princeton, Innsbruck, Oxford de nouveau, Cambridge, Genève et ensuite Oxford. Dans un ouvrage tout à fait remarquable, donc je vous conseille vivement la lecture, qui a été publiée en Grande-Bretagne en 1998 sous le titre de Examined Life, traduit en français sous le nom d'Errata, Récit d'une pensée, publié chez Gallimard en 1999. Georges Steiner, parmi de nombreux perles et joyaux, évoque deux choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. D'abord, les vertus du fait d'être un polymathe. Ça, c'est une expression qui revient souvent sur votre plume. De nos jours, dit-il, c'est l'avant-dernier article de ce recueil, de nos jours, on se méfie du polymathe. L'usage anglais et français du terme ne va pas sans une pointe de sarcasme. Le polymathe a peu de collègues, il commettra des erreurs et des omissions, peut-être triviales ou faciles à corriger, mais d'une espèce qui exaspère le spécialiste, qui fait douter de l'œuvre entière. Et pourtant, l'impatience, le peu d'inclination à soumettre le travail en cours à l'acribie d'un spécialiste, la pression des délais et des estrades, etc. Cette vertu de pouvoir circuler entre les textes et les corpus est une dimension qui est véritablement formatrice de la pensée de Georg Steiner. Et je voudrais, comme antidote à cette volonté qu'a eu une œuvre en tout point remarquable, qui a été saluée par de très nombreuses reconnaissances internationales et qui s'est exprimée, qui a donné lieu également à de nombreux ouvrages, je voudrais en quelque sorte passer à l'autre opposé de cette évocation du savoir d'ensemble ou du savoir universel, qui est l'extrême souci accordé à la singularité. Et dans la plupart de ses essais, mes biographiques, mes critiques, Georg Steiner revient constamment sur la nécessité de comprendre, percevoir et respecter la singularité. Cette brève présentation, si vous voulez, se conclura sur ce bref extrait. Dans le chapitre 2 de ce volume, La vie examinée, Errata, Georg Steiner reprend quelque sorte une analyse très détaillée de la vocation critique. Il souligne que le sens d'une œuvre est, je le cite, étroitement lié aux circonstances, aux réalités perçues, aussi lié que l'est notre corps. Et il ajoute, il se peut même, comme l'affirme Borges, qu'à la fin du XXe siècle, il faille dater l'Odyssée après l'Ulysse de Joyce. Mais il ajoute aussitôt, tel est le nœud, un maître lecteur, spectateur ou auditeur, nous d'une certaine façon, équipé, dans le cas de la littérature, d'un savoir linguistico-historique, idéalement sensible aux vies polysémiques et métamorphiques du langage, intuitif et inspiré dans son empathie, ne fera jamais que s'approcher tout près. L'ultime force de vie du poème ou de la prose étant élucidée, son pouvoir contre le temps demeurera intégral. Nulle herméneutique n'est l'équivalent de son objet. Cher Georg Steiner, nous allons vous écouter très attentivement, à la fois dans votre prodigieux talent herméneutique et dans votre conscience aiguë aussi, qu'aucune herméneutique n'est jamais égale à son objet.
Je voudrais remercier Madame la Directrice de cette belle invitation qui me fait un très grand honneur, et mon jeune et brillant collègue Donatien Gros, qui a été mon guide dans cette maison. Dans les classes primaires, aussi dans les jardins d'enfants, on met sur les murs des grandes affiches avec des images, des mots, des phrases. Imaginez qu'on puisse faire ça dans cette salle. Il y aurait quelques citations qui vont nous guider pendant ces trois séances. On ne pense en philosophie que sous la métaphore. Et c'est pour faire honneur à cette maison que je commence avec une citation des éléments d'autocritique de Louis Althusser. On ne pense en philosophie que sous des métaphores. Dans Situation 9, Sartre nous dit « Il y a dans toute philosophie une prose littéraire cachée, une ambiguïté des termes. » Le plus important poète allemand et penseur poétique allemand depuis Paul Celan, Durst Grünbein, je cite « Devant les poètes, les philosophes ont l'air tellement bien habillés, mais au fond, ils sont nus, piteusement nus, si on commence à réfléchir à quel point la langue des philosophes a besoin d'images, de métaphores, de poésie. » Durst Grünbein. Et finalement, pour nous guider dans toutes ces séances, une phrase d'Alain dans son commentaire sur la jeune Parc de Valéry, nous y reviendrons. Toute pensée commence par un poème. Toute pensée commence par un poème. ça va être un peu, si vous voulez, le mot de passe de ces trois séances. Et à un autre mur, nous placerons, pour un instant, temporairement, une remarque qui a paru dans un essai très peu connu, 1943, de Jean Vahl. Je cite, « Il me semble qu'il y a quelque chose de défendu, de sacrilège, de parler des rapports de la poésie et de la métaphysique. » Jean Vahl en 43. Il reviendra sur ce jugement, mais pour l'instant, on le met aussi au mur. Peut-être, effectivement, il y a quelque chose de sacrilège, de défendu dans ce que nous allons faire ensemble. Les données premières de toute philosophie, hormis le langage symbolique et métamathématique, sont ce qu'on appelle en anglais, en américain, « speech acts », actes de langage. Pardonnez, parce que je vais débuter par des choses beaucoup trop élémentaires, mais ce sont les choses élémentaires qui sont les plus difficiles. Des actes de langage. Toute énonciation, pour abstraite soit-elle, pensons à Spinoza, est un vocabulaire, une syntaxe. Elle s'inscrit dans le champ linguistique, là c'est l'allemand qui nous aide, le Sprachfeld, le champ, les contours linguistiques. Un Sprachfeld historique, contemporain, socialement déterminé, tout comme le texte littéraire. Pour varier Derrida, il n'y a pas de hors-contexte. Il n'y a pas de hors-contexte. Toute pensée est style. Toute pensée, même la plus abstraite, la plus complexe, est style. Paul Klee, je ne suis rien d'autre que mon style. Je ne suis rien d'autre que mon style. C'est une remarque importante, je crois. Rien ne démontre la possibilité d'une pensée pré-linguistique, d'une proposition avant la parole. C'est un rêve curieux, ou peut-être un cauchemar. Il hante l'ontologie et la psychologie. Pensée avant la parole. Il n'y en a aucune trace repérable. La spéculation métaphysique la plus transcendante, la fiction poétique la plus surréaliste, naissent dans le lexique et la grammaire. Nous sommes effectivement, les Grecs l'ont dit, l'animal langage, zoon phonanta, l'animal qui parle, et le problème, je le mets de côté, mais j'aimerais beaucoup que vous y réfléchissiez, parce que personne ne nous aide, on ne le pose même pas. Quelle est l'ontologie, quelle est la métaphysique du sourd-muet? Je laisse ça de côté, c'est une question vertigineuse, croyez-moi. Et personne n'a essayé jusqu'à maintenant de creuser ce problème. Mais ça, c'est une note à côté. Les tentatives d'échapper à cette contrainte, au Speech Act, à inventer un langage nouveau, innocent de tout passé, ces tentatives échouent à chaque fois. Elles sont fascinantes, elles vont nous occuper. Il y a les futuristes russes qui proclament une nouvelle langue, totalement nouvelle. On va inventer une langue, Klebnikov, mais aussi d'autres poètes et penseurs russes. Inventer une nouvelle langue. Il y a les vocalises du dada. C'est très important. Le dada est aussi une métaphysique, une anti-métaphysique. Et quand Hugo Ball et Tristan Tzara viennent en scène à Bâle, à Zurich, dans ces terribles années 1915-16, au milieu des massacres, avec leur vocalise du non-sens. Ça a un sens énorme, c'est la protestation contre la fatigue, contre le désespoir de la langue rationnelle. Ou finalement, ça sera l'essentiel dans notre troisième rencontre, créer après la Shoah ce que Tselan dit sera une langue au nord de l'avenir. Eine Sprache im Norden der Zukunft. Une langue au nord de l'avenir. Jusqu'à maintenant, ce rêve pré-adamique ou post-humain reste une hantise tautologique. Ce n'est que très partiellement que certains poètes, grands poètes, certains penseurs savent créer une terminologie à eux, une syntaxe innovatrice. Recréer la grammaire, c'est l'ambition même de Heidegger. Heidegger va dire, il y a un Allemand avant moi et après moi. Et par certains côtés, nous le verrons, c'est probablement vrai. Mais c'est infiniment rare. Et sera toujours le but, le rêve de la métaphysique de s'échapper du poids de la parole. Le lexique, on verra un texte merveilleux de Borges là-dessus. Le lexique est déjà, au sens hegélien, l'encyclopédie du total. Tout y est. Vous vous souvenez, Borges insiste toujours. Dans le dictionnaire, tout y est. Hegel est d'accord. Hegel est d'accord, à sa façon, nous le verrons. Mais comment se libérer de ce poids? Il s'ensuit que toute doctrine, tout système, tout enseignement philosophique a son origine et son développement dans la matrice d'un style, dans les tonalités, aussi au sens musical, d'une voix. Cet élément immédiat infléchit la pensée, sa puissance rhétorique, son éclat dramatique peuvent être tels qu'ils éclipsent le contenu dit abstrait. N'est-ce pas cela le dilemme que pose la lecture de Nietzsche? Dès les débuts de l'œuvre de Nietzsche, la puissance lyrique menace d'étrangler, si l'on veut, menace d'obnubiler le contenu systématique. D'où la stratégie, et voilà qui est fascinant, d'écrire mal. Que la seule solution pour un philosophe sérieux, c'est d'écrire mal, pour qu'on ne le lise pas pour sa puissance littéraire. Kant a un soupçon profond devant la poétique, et chez Hegel, l'ambition d'écrire mal est manifeste. Il y réussit d'ailleurs, magnifiquement. Il y réussit. C'est un style, on en reparlera. Mais il y a là une intention profonde et passionnante. Je veux qu'on me lise pour ma pensée systématique et non pas pour mon éloquence oratoire. Mais quel qu'en soit le contenu traduisible, la philosophie est aussi littérature. Et ce sera le thème dans ces trois leçons, celui de certaines rencontres, réciprocités, rivalités, affinités électives, Wahlverwandtschaften, entre le poème et l'œuvre philosophique. Certains moments où la distinction entre les deux se dissout, pour ainsi dire, dans une symbiose toujours en tension. N'est pas grand philosophe qui n'est pas grand poète, dit Leopardi. Est-ce vrai? Et à quel prix? On va essayer de se poser la question, à quel prix? Certaines questions sont implicites. Les sources communes dans l'inconscient. Les rêves de Descartes. le motif d'une pensée philosophique non verbale, c'est-à-dire le chant. Avant sa mort, Socrate chante la danse. « Je voudrais que ma pensée soit dansée », dit Nietzsche. « Je voudrais que ma pensée soit dansée ». Ça veut dire quoi exactement? Et ça sera repris, bien sûr, par Valéry. La danse de l'âme, la danse de la pensée. La méta-algèbre, cette magnifique ambition. Non, je suis un mathématicien. Lisez-moi comme mathématicien chez Spinoza, et puis, dans les temps modernes, chez Frege. Dans toute la logique et l'ontologie de Frege. Et en rêvait Husserl, qui avait des connaissances très fortes en mathématiques pures. Nous allons débuter, c'est élémentaire bien sûr, par certains aspects du miracle grec. Quel, précisément, est ce miracle? C'est la découverte de l'inutilité. C'est inexplicable, cette découverte. D'autres civilisations, Sumer, l'Égypte, pratiquent l'agronomie, l'astronomie, la médecine, à des buts pratiques, pragmatiques, appliqués. L'immense scandalon, le mot grec que reprendra toujours Kierkegaard, le scandale transcendant après Thalès et Anaxagore et celui de l'inutilité transcendante. Ça ne sert à rien. Tout à fait comme la musique et les maths pures sont les trois formes mystérieuses où l'animal humain, animal par tant d'aspects, découvre le paradoxe de l'inutilité. Les maths pures, la musique, l'enquête métaphysique, le poème lyrique, qui merveilleusement ne servent à rien, et si application il y a plus tard, elle sera contingente et postérieure. Penser pour penser. Ne prenez pas ça comme étant évident. C'est fantastiquement scandaleux. Penser pour penser. Au prix de la vie. On dit à Archimède, prenez la fuite. Les assassins sont proches. Archimède refuse. Il est en train de travailler un problème dans la géométrie des sections coniques du cinquième ordre. Problème qui ne sera résolu qu'au XVIIIe siècle. Et il meurt en travaillant son problème. Attention, il meurt en travaillant sur ses sections coniques, sur l'algèbre des coniques. Celui qui a identifié cette inutilité, cette énigme, ce mystère rayonnant, c'est Kant, avec le mot désintéressé, dans le sens kantien, le désintéressement pur, dont toute la pensée abstraite, toutes les mathématiques transcendantes, toute poésie lyrique et musique sans programme sont comme une note liminaire. Penser pour penser, pas pour gagner de l'argent, pas pour faire une carte agronomique, pas pour voir si le temps va changer. Penser pour penser. On voudrait bien sûr comprendre les motifs de ce miracle, de cet éveil. Certaines données sont suggestives, mais aujourd'hui nous nous trouvons dans un climat très malade qui s'appelle « political correctness ». Et je ne peux pas développer ce que je voudrais vous dire. Je vais l'esquisser avec grande discrétion. On est ensemble, on est entre amis. Dans un auditoire anglo-saxon, ça serait probablement aujourd'hui impossible. Je commence par ce qui est encore moins dangereux. Le climat grec et la protéine. Il y avait assez à manger. Dans les Camerounes, non. Il y a 3000 ans de faim. C'est important. Deuxièmement, et ça devient très risqué, l'esclavage. C'est l'esclavage qui donne le temps au maître de penser. Le maître peut aller dans l'agora, à l'académie, il peut s'asseoir sur le parvis du temple avec Héraclite, et il peut réfléchir toute la journée. C'est l'esclave qui s'occupe des nécessités de la vie. Et troisièmement, oh, ne vous fâchez pas, le rôle de dépendance de la femme, là, c'est le sujet le plus dangereux. Nous comprenons encore assez mal ce qu'a été précisément le statut de la femme dans l'oikia et la politéia. Aristote a des choses très laides à dire là-dessus. Mais certainement, il y avait là un élément très complexe qui permettait aux hommes ou qui leur donnait pendant un certain moment un monopole de la pensée abstraite, de la pensée pure. L'intelligentsia athénienne a le temps de réfléchir, le loisir de cultiver le débat inutile. Elle instaure l'académie, la joute dialectique et depuis Héraclite, le traité abstrait, où abstraction signifie liberté et le jeu du cogito, le jeu, homo ludens, l'homme qui joue avec la pensée, qui joue avec les équations pures. Un séminaire comme celui-ci en est l'héritier, pâle peut-être, mais c'est héritage direct. Et cette absurde magie de la pensée pure, abstraite, autonome, c'est cette identification entre pensée et être, énoncée par Parménide, reprise par Descartes, qui donne au pré-socratique l'éclat à la fois de l'aurore et de la finalité. Il y a un double éclat. La lumière du matin est déjà celle du crépuscule. Aucune distinction entre poème et texte philosophique. Au début, c'est la même chose. La prose est une invention très tardive. Nous pensons aujourd'hui que la prose ne prendra conscience de son génie, à elle, de ses puissances qui ne sont pas celles du poème, qu'avec Hérodote et Thucydide, avec les historiens. C'est très tard. Nous remontons à des origines, celles des chamans, l'orphisme de la sagesse, chanter. Chanter, écrire en vers, facilite énormément l'exercice de la mémoire, mère des muses, le par cœur. Cette merveilleuse phrase française, le par cœur. Pas par le cortex, par le cœur. C'est là que la métaphysique va se développer. Il incarne le poème, l'intuition, que la pensée philosophique obéit à, surgit deux critères d'harmonie, de cadence, d'accord, qui sont celles du chant. Les penseurs à l'aube sont des rhapsodes. Dans Lyon, s'en moque Platon, mais attention, il s'en moque avec de l'inquiétude. C'est un rire un peu apeuré. Le rhapsode remonte à une époque beaucoup plus ancienne que la philosophie formelle, et cette intuition entra la pensée scientifique. Leibniz, c'est une citation que je voudrais comprendre mais je l'adore, pardonnez-moi. Quand Dieu se parle à lui-même, il chante de l'algèbre. C'est Leibniz. Quand Dieu se parle à lui-même, singt der Algebra, il chante de l'algèbre. Je crois commencer à comprendre, mais pas encore. Avec sa modestie incomparable, en 1948, dans son carnet personnel et privé, Einstein note « Je voudrais comprendre la musicalisation d'un raisonnement juste. » Je voudrais comprendre la musicalisation d'un raisonnement juste. Et finalement, à la veille de sa mort, Wittgenstein dit « Mais j'aurais dû écrire en vers. Ich hätte in Versen schreiben sollen. » Juste avant sa mort. Et Wittgenstein, c'était pas une boutade. Je crois que c'était infiniment sérieux pour lui. Donc, nos débuts, une tension extrême. C'est Homère qui a éduqué la Grèce. Pythagore sort de l'école des poètes, des Homérides. Aristote va distinguer les discours de la nature et les discours orphiques. Dualité et transition chez Pythagore, lecture constante mais ambiguë des poètes maîtres, chaman et mathématicien à la fois. La lutte va s'engager, vous le savez bien, avec Platon, parce que Platon craint le poète en lui-même. Platon débute en écrivant des tragédies. On l'oublie parfois. Il les détruit toutes. Elles n'étaient pas très bonnes, paraît-il. On aimerait en trouver une, n'est-ce pas, une tragédie de Platon. Et dans toute son œuvre, il va lutter contre le grand, grand poète en lui-même. On y reviendra. Le poète lui fait peur. Le poète connaît la descente dans le royaume des morts. Le poète chaman a pu concevoir de la résurrection. Un très lent écart se produit au VIe siècle entre le mythe qui deviendra religion et la prose du monde, comme aurait dit Merleau-Ponty, la prose du monde, qui, elle, retiendra encore longtemps une forme poétique. Parménide, Empédocle, conflits et réciprocité qui ne cesseront jamais, qui sont aussi vifs chez Heidegger et René Char qu'elles ne le furent chez les Homérides et les Pythagoriciens. Transformation, mutation au sein d'une histoire sociale, politique, économique, dont Platon est le témoin suprême et inquiet. Les lectures de Parménide par Martin Heidegger dans les années noires 42-43 touchent à chaque aspect de notre thème. Comment le poème est-il devenu doctrine ou doxa? C'est chez Parménide que se trouve le constat essentiel. Vivre, c'est penser, penser, c'est vivre. Croyez-moi, ce n'est pas du tout évident. Il n'y a pas d'autre civilisation qui a dit ça. C'est ouvrir une parenthèse immense, ne m'en voulez pas, c'est absurde de mettre en parenthèse. Mais la civilisation hébraïque n'a jamais dit ça. Jérusalem ne dit pas que penser, c'est vivre. Athènes le dit, à partir de Parménide et peut-être même encore avant. Se recroise en allemand sagen und sage, dire, et la saga, la légende, le mythe. Le mythe parle, le mythe philosophique parle. Le contraste est entre le sens de la vérité, chez Parménide déjà, très aigu, et ce processus de dévoilement presque mystique la Letheia de Heidegger, d'une part, et la fête que fait Apharménide dans la huitième des élégies de Duino, Rilke. Quand Rilke s'écrit avec l'extase sur la poétique de la pensée. Heidegger dit que l'essentiel est intraduisible. La maison de la déesse, c'est une citation de Parménide, la maison de la déesse est le lieu de l'arrivée, Ankunft, de l'entrée de l'homme dans das Denken der Wanderung, dans le grand pèlerinage pensant, dans le grand voyage qui depuis 2500 ans nous occupe. L'homme qui devient le pèlerin de la pensée, Denken der Wanderung. Parménide est un maître du rythme et de l'asymétrie dans la métrique, comme dans une frise archaïque des premiers grands temples grecs. Karl Reinhardt, dans une monographie célèbre, 1916, commence à découvrir les règles archaïques de la composition. Parménide essaye d'encapsuler, de rassembler, de récolter la somme de son argument, même dans le plus petit fragment. C'est comme s'il avait deviné que le texte ne survivrait qu'en partie. Ce n'est pas le mot allégorie qui compte ici. C'est, et c'est aussi une image de Parménide, le vêtement de la pensée. Le mythe, c'est le vêtement que porte la pensée. Mais pour Parménide, les procédés de l'argument, de l'abstraction, deviennent champs. Le monde, dit-il, est le miroir de ma pensée. Ainsi, le processus poétique devient la peau, c'est le seul mot, de la philosophie radicale. Il y a identité existentielle entre l'épistémologique, mais où il se fait technique, et la beauté du poème, ou l'énergie du poème, le chant. Dans nos textes, qui sont fragmentaires, bien sûr, il y a des éclairs de poésie pure. Parménide appelle la lune de minuit, qui se promène autour de la terre, une lumière étrangère, Zénos, une lumière qui vient de l'étranger, en contraste avec celle du soleil apollinien. Il parle de la puissance chaude, la chaude puissance des étoiles qui se développe vers l'être. L'étoile se réveille. L'étoile a un processus de naissance et d'expansion vers l'être. Cette merveilleuse phrase, la chaude puissance de l'étoile. L'astrophysique moderne aura son mot à dire sur cette chaude étoile. Parménide avait la sensibilité d'un poète, avec un sens aigu des interpénétrations acoustiques des mots. Il y a l'ambiguïté, l'ironie poétique, l'oxymore, qui dramatise la thèse centrale du conflit. Le soleil, dit-il, nous aveugle, il éteint les étoiles, donc c'est le soleil qui rend les choses invisibles. On n'est pas loin de Pascal. Parménide a un sens du développement intérieur, de la genèse du sentiment, de la sensibilité vers la richesse du langage. les salutations presque rituelles au début du dialogue de Platon, le Parménide, se font l'écho de celle de la salutation à la déesse qui préside au poème de Parménide sur la nature. Ce sont des salutations, est-ce que j'ose dire, hors orales. Ce sont les premières salutations de la pensée au grand matin. En contraste à Parménide, dit Heidegger, nous sommes dans le pays du coucher du soleil, nous sommes im Abendland, nous sommes dans le pays vespéral. Des deux maîtres du poème philosophique, Empédocle est plus facile d'accès. Les érudits ont trouvé dans son vocabulaire, dans sa syntaxe, des formes plus anciennes que tout commentaire. Le cycle cosmique dont parle Empédocle a, et je cite Jonathan Barnes, le principal éditeur aujourd'hui d'Empédocle, une fascination entièrement esthétique, celle d'un grand style de poète. Aristote, qui jalouse un peu Empédocle, et je cite, « Après tout, ce qu'il a écrit, ce sont des grands poèmes épiques. Attention au « après tout ». Il est possible qu'il y ait des éléments qui proviennent de Pythagore et de la rhétorique des mystères. Empédocle compose au moment même de l'Orestée d'Eschyle. Et son contexte est hautement littéraire. Empédocle voudrait illuminer notre vie par un rituel poétique. Il parle de la splendeur blanche de Zeus, la splendeur blanche de Zeus, de la foule tout d'un coup muette des poissons qui montent la rivière, la foule tout d'un coup muette. Il parle d'une façon presque surréaliste de la terreur des mondes d'outre-tombe qui anticipent sur l'enfer de Dante, les corps errants et déchirés dans la turbulence du chaos. On peut penser à lui, et je cite, « un grand artiste cartésien ». Empédocle note que l'entrée, la pulsion de la connaissance philosophique dans le cerveau de l'homme est angoissante, elle est lourde. La pensée ne vient pas gratuitement, elle peut être dangereuse. Et son imagination devient polymorphe. J'aurais aimé être un jeune garçon ou une jeune fille dans la broussaille le matin. J'aurais voulu être un petit oiseau, un poisson muet dans les ondes salées. C'est Aphrodite, la déesse même de l'amour, qui va lui donner le courage de continuer sur sa voie philosophique. Il va hanter, n'est-ce pas, toute l'imagination littéraire métaphysique en Occident. L'icône de son suicide sur le volcan va devenir essentielle pour Hölderlin, trois grandes versions de son drame Empédocle. La cosmologie philosophique aura une fortune immense dans l'éternel retour de Nietzsche, mais aussi chez un maître poète comme Yeats. Et nous avons toujours des tentatives de comprendre ce qui nous manque des textes d'Empédocle. Yeats, Pound, Joyce citent Empédocle et voient dans sa mort, au milieu des flammes du volcan, comme le symbole même de l'autodestruction d'une pensée. cette fascination va s'étendre, la fascination des pré-socratiques. La vie après la vie de Pythagore, dans la légende des mathématiques, de la théorie musicale, dans l'architecture. Le Pythagore du Moyen-Âge et de la Renaissance. Zénon et ses paradoxes dans la poésie de Valéry. Démocrite, qui occupe la jeunesse et la première recherche de Marx. Démocrite, qui est pour Marx celui qui a établi l'espoir d'une preuve, d'une pensée qui puisse atteindre une preuve. Les textes ioniens, éléatiques, pythagoriciens, les textes qui suivent Héraclite sont poétiques de bout en bout, et de cette interaction narrative, formelle, encore en partie mythologique, mais déjà analytique, de cette tension intérieure entre le poème et le système, vient la richesse, la hantise de cette pensée. L'effort de prendre en compte cette tentation de la poétique, on le retrouve à chaque moment, vous le savez, chez Nietzsche et Bergson. Mais aussi l'effort d'y résister, ceux qui n'en veulent pas, ceux qui ne veulent pas du rayonnement de la métaphore et du poème, Spinoza et Kant. Mais ils n'ont jamais pu résister entièrement, nous le verrons, et leurs successeurs sont dans la même merveilleuse trappe. Parler de poésie et de métaphysique, c'est parler avant tout, et je le ferai très brièvement, du plus grand poète philosophe qui est Lucrèce. Lucrèce, dont le De Rerum Natura a un salut profondément émouvant. À Empédocle, flamma forces, vastis aetna fornica pilus efflet, sur la lisière du terrible feu, tout d'un coup, qui lui donne accueil dans l'abîme de l'Etna. Chez Lucrèce, un poème qui se veut exposition systématique, didactique, du système épicurien, devient bien sûr beaucoup plus. Lucrèce développe une philosophie à lui propre, elle est épicurienne, mais elle a à chaque moment l'empreinte de son génie poétique. Le début, c'est la célèbre hymne à Vénus. Et à travers le poème entier, cette hymne va s'étendre sur l'être. Tibi rident aequora ponti, riant sur les grands océans. Il y a l'élan vital cosmique, il y a toute une cosmogonie matérialiste qui, sauf Thucydide, a pu égaler le tableau effarant que fait Lucrèce de la peste, des marées de la mort qui viennent d'Égypte déferler sur Athènes, des feux qui réduisent l'homme à la folie. Oui, il veut célébrer les puissances de la raison, de la diagnose rationnelle, mais il en connaît admirablement les limites. Musaba tacito, medicina timore. Telle était l'horreur, elle réduit les connaissances médicales au silence. Je cite, les médecins ne savaient pas quoi dire. Ils avaient, eux, peur des yeux brûlants et ouverts qui les regardaient, des yeux qui n'ont plus connu le sommeil pendant la peste. Le sommeil, c'est le plus beau cadeau que la nature a fait à l'homme, d'après Lucrèce, libère les esprits et permet le repos du rêve. Dans un axiome tout aussi lapidaire que le sont ceux de Wittgenstein, et qui est presque du Wittgenstein tout pur, Lucrèce conclut « On ne peut pas vivre la mort ». C'est presque textuel du Wittgenstein. « N'ayez pas crainte, on ne peut pas vivre la mort. Elle est en dehors de la vie. » Il est le plus latin des grands poètes romains. Il est celui dont la langue, bien plus que celle de Virgile, s'est libérée de l'exemple grec. Aucun autre poète latin n'a pu rivaliser avec la marche des légions de Lucrèce. Les légions, ce sont les pieds des poèmes, ce sont les vers. C'est le rythme de cette pensée, cette magnifique, célèbre image qu'une grande pensée, c'est danser en armure. Une grande pensée, c'est danser en pleine armure. On porte la lourde armure du légionnaire romain et on danse avec. Quelle merveilleuse définition d'une grande pensée. Danser sous le poids des armes. De nouveau cette danse, nous la retrouverons bientôt. Lucrèce nous dit qu'il y a dans la pensée même la plus systématique, gravitas, des moments de pure joie physique. On pense, à nouveau, en honneur de cette maison, à la pesanteur chez Simone Weil. Il y a cette pesanteur déjà chez Lucrèce. Une grande pensée a du poids. Elle pèse. Mais c'est un poids plein de grâce. C'est un poids qui, chez Lucrèce, se traduit en danse. Les syllabes, danse cristallisée, la syntaxe lourde, s'infléchit sous le poids de la spéculation métaphysique. Il peut y avoir de l'accelerando dans ces vers, mais c'est un accelerando, oui, d'un jeune homme qui porte un casque, qui porte une armure. Écoutez au poids léger, c'est un oxymore, je m'en excuse, je ne sais pas m'exprimer autrement. Cum pueri circum puerum pernitecores, armatei innumerum pulsarent aeribus era. Il danse dans l'air, les jeunes gens chargés d'armes qui dansent. On ne peut pas surestimer la descendance de Lucrèce. Chaque fois que la philosophie européenne, que l'éthique européenne va essayer de tâter au matérialisme, à l'athéisme ouvert ou masqué, au matérialisme, à l'humanisme stoïque, le talisman, c'est le poème de Lucrèce. Ces arguments étaient indispensables au dialogue philosophique entre poème et pensée de Leopardi. Et comme Leopardi lui-même, Lucrèce a eu le courage d'opposer ses opinions à celles de son temps. Déjà pour les jeunes poètes de l'époque victorienne, pour le Tennyson, pour le Lucrèce, donne permission, si vous voulez, rend valable l'effort de penser contre les doctrines religieuses officielles. Peut-être, dit-il, l'heure est proche quand l'homme va abandonner le despotisme des opinions reçues et va redevenir libre comme Lucrèce. C'est une citation de Karl Marx. Il y aurait encore beaucoup de textes à examiner aujourd'hui sur ce point de l'interpénétration des poètes et des philosophes. Xénophane, qui a laissé cette grande pensée, cette grande remarque, « Si les bœufs avaient un dieu, il aurait des cornes », c'est magnifique. Il n'y a rien à ajouter. Xénophane présente son argument en vers, en hexamètre, elegiae. Même dans le texte le plus ironique de son système, ce qui nous en reste, quelques fragments, il s'identifie comme rhapsode, c'est un chanteur qui va de cours en cours, de ville en ville. C'est entièrement, bien sûr, la première forme de philosophie. Les rhapsodes transmettent la pensée, les muses sont celles de la pensée et du vers, et Parménide nous atteint à travers ses poèmes, et Empédocle a survécu un des plus beaux textes sur des petites lamelles d'or, d'or pur, qu'on a trouvé dans une tombe en Italie du Sud, en Sicile. Les textes d'Empédocle sur une lame d'or. Il aurait beaucoup aimé ça, parce que le mythe raconte, vous le savez très bien, que sa sandale était une sandale d'or qui a été rejetée par le volcan. C'est la seule chose. On trouve la sandale d'or. C'est une chose qui fascine Nietzsche, la sandale d'Empédocle. Je voudrais conclure aujourd'hui, mais très doucement, par un texte magnifique qui résume tout entièrement au-delà de mes moyens tout ce que j'ai essayé d'une façon si préliminaire de vous dire. C'est au livre 15 des Métamorphoses d'Ovide. C'est au livre 15. C'est son grand salut à Pythagore. C'est, si vous voulez, l'un des premiers grands poèmes destinés à un philosophe. C'est un genre assez rare. Nous aurons, je le citerai plus tard, nous aurons le seul beau poème de Hegel. C'est un très beau poème. Il l'écrit à Hölderlin, en hommage à Hölderlin. Mais là, c'est Ovide qui veut saluer Pythagore. Pythagore détestait les tyrans. Ce sont tous, bien sûr, des vers magnifiques. Il avait choisi l'exil. Ce thème de l'exil réunira certains poètes et certains penseurs, et le Baal Shem, le patron, si vous voulez, l'égide de la pensée hasidique juive, dit, et c'est, je ne veux pas être prétentieux, mais pour dire les choses en toute reconnaissance pour cette invitation et en tout bonheur, je vis d'après une phrase du Baal Shem, la vérité est toujours en exil. C'est la phrase qui a décidé de ma vie. La vérité est toujours en exil. Attention à la vérité qui a une patrie. Elle est fausse. La vérité est toujours en exil. Et de cet exil, sa pensée atteint jusqu'au seuil des dieux de l'Olympe. L'imagination de Pythagore va engendrer des visions qui dépassent son regard mortel. Lui, il étudie toutes choses et rapporte ce qu'il avait récolté. Ce n'est pas un ésotérique. Ovide célèbre le grand penseur qui veut parler aux autres, à tous. Ce n'est pas du tout toujours le cas. Attention, on ne pouvait pas essuyer colère pire que celle de Ludwig Wittgenstein si on lui mentionnait qu'un public un peu plus large commençait à s'intéresser à son œuvre. Il trouvait ça une cochonnerie. Non, voilà le contraire. Il rapporte la récolte, s'asseyant parmi le peuple qui écoutait en silence, émerveillé de ses révélations. Sur l'origine du monde, sur les causes premières, et là, il prend la phrase lucrétienne « De rerum natura », ce qu'est Dieu, d'où tombent les neiges, d'où éclate la foudre. Neige et foudre. On est en plein dans une des magnifiques, dans un des bois de Hokusai, dans l'art japonais, où la foudre vient à travers la neige. C'est du tonnerre, si vous voulez. D'où tombent les neiges et d'où éclate la foudre. Est-ce Jupiter ou est-ce le vent qui tonne? La cause des séismes. D'après quelle loi les étoiles parcourent leur chemin? Tous ces secrets cachés au savoir imparfait de l'homme, il voulait les passer à ceux assis autour de lui. Autre vision infiniment grecque. On s'assoit autour du sage, autour du maître, et on écoute. Et puis, il y a un côté qui est moins dans mes convictions, mais j'en vois la justice. Il fut le premier à dire qu'il ne faut pas manger de viande. Parce que bien sûr, Pythagore croit à la métempsychose. L'âme prend les formes des animaux. Alors on ne sait jamais qui on est en train de manger. Pour le dire. Et on ne le crut pas toujours, dit Ovide. Il fut le maître, je cite, du long discours de la pensée. Et puis voilà, on y est. Il n'est pas plus grande merveille au monde que celui de la pensée. La pensée peut écarter les craintes irrationnelles de la mort et faire du destin un livre ouvert à l'intelligence de l'homme. Il nous enseigne, je cite toujours, nos âmes sont immortelles, tout est perpétuel changement, mais rien ne meurt. Et puis, à pleine voile, Pythagore navigue l'océan sans limite. Il y aurait toute une anthologie à faire sur cette simple image. La pensée, c'est la navigation sur l'océan sans limite. Ceux de vous qui rendons visite à Cambridge, vous avez la fameuse statue de Newton et le jeune Wordsworth, étudiant dans le même collège, met comme épigraphe « Voyaging through seas of thought alone », voyageant à travers les mers de la pensée, seul, en solitude. L'image a son origine dans ce qu'Ovide connaît de Pythagore. Il connaît bien sûr beaucoup plus de textes que nous. Tout est flux, tout est nuit et aurore qui s'échangent, les phases de la lune, les quatre saisons, les âges de l'homme, même les éléments premiers, feu, air, eau, terre. Mais la grande somme est constante, comme l'enseigne la physique moderne, et elle est ouverte à l'intelligibilité par ce miracle qu'est la pensée. Et parfois, dit Ovide, les fleuves disparaissent sous terre et ressurgissent autrefois. On redécouvre les pensées perdues. Note liminaire, c'est ma mauvaise habitude, ne m'en voulez pas. Note liminaire, il n'y a rien de plus horrible que la possibilité que certaines vérités, très très rares, ont été détruites pour toujours. On n'y croit pas, mais c'est juste possible. Vous le savez, il nous reste rien de la Bible cathare. Rien. Peut-être ont-ils découvert certaines choses que nous n'avons jamais retrouvées. C'est toujours une note liminaire. Mais pour l'essentiel, Ovide a raison. Les fleuves peuvent disparaître, mais ils ressurgissent après. Les vérités, on les retrouve. Les vérités reviennent. Le mystère est celui de l'engendrement et du phénix, qui sort des milieux des flammes. La chute de Troie sera cause de la naissance de Rome, qui sera un jour souveraine du monde. La mort d'Empédocle, nous dit Ovide, va rendre immortel son poème. Philosophie, métaphysique, poétique. Il faut essayer de comprendre non seulement ce miracle, mais aussi les difficultés qu'il pose à tout système rationnel. Il faut essayer de comprendre pourquoi le philosophe veut écrire mal, certains philosophes. Et avant tout, il faut essayer de comprendre pourquoi la logique symbolique, la language philosophy récente et moderne, est à nouveau hantée par le rêve spinoziste. On va se débarrasser des mots. Les mots, ça ne va plus. Le symbole métamathématique, l'algorithme mathématique et symbolique. On sait que ça ne marche pas, bien sûr. Mais la tentative est passionnante. Elle va toujours se répéter à travers les textes que nous allons essayer d'effleurer ensemble. La prochaine fois, si vous voulez bien, je vais me pencher sur les liens entre deux mots, dialogue et dialectique. Quels sont, dès le début, dans l'histoire de la philosophie et du poème, les liens entre ces deux mots, qui bien sûr ont une origine partagée. Ça, c'est pour mercredi. Merci.
Puisque vous avez établi dans le parcours donc, que vous nous avez permis d'entendre un entrelacement entre métaphysique et poésie, si on pouvait saisir les choses de manière hegelienne dans ce parcours entre poésie et pensée, le parcours ne serait un vrai devenir que si la pensée est originairement à l'origine de ce mouvement.
Mais
la question que je voudrais vous poser, avez-vous identifié dans tous les auteurs que vous avez étudiés une quelconque source d'un besoin de la poésie au sein duquel la poésie telle qu'elle est déterminée, réalisée, offrirait pour nous une solution à une question qui demeure encore pour nous énigmatique.
Dans la troisième séance, là, l'allemand aide beaucoup Dichten, Denken, l'accouplement des deux mots, faire de la poésie, faire de la pensée. Et j'ai pas de réponse à votre question, mais j'espère toucher à certains éléments qui deviennent primordiaux, bien sûr, chez Heidegger, mais qui se présentent déjà, vous le savez, au début de la grande philosophie allemande, chez Herder, chez Schelling, chez Fichte.
Oui. Il y a un mot que vous n'avez jamais prononcé, qui est le mot de rhétorique. Est-ce que pour vous, la rhétorique est un produit dérivé de la poétique, ou on a un troisième intervenant?
C'est un instrument, pour moi. La rhétorique, vous le savez, dès le début, l'art de la persuasion, l'art du convaincre, la pétaine. La rhétorique doit convaincre. Socrate, maître de la rhétorique, la dénonce systématiquement chez les sophistes. La rhétorique n'a pas bonne presse. On dit de certains penseurs, ce ne sont que des rhétoriciens. C'est certainement injuste. Mais la poésie s'entend mal avec la rhétorique, quoi qu'elle en ait lourdement dans sa dette. Il y a en ce moment en France un retour très actif à l'étude de la rhétorique, n'est-ce pas? Ça prend de nouveau un essor remarquable. Et il y a des très grands philosophes tels que Malebranche, qui sont des rhétoriciens maîtres, qu'ils ont eux-mêmes. Ça va affleurer à certains textes que j'espère citer, parce que dialogue et dialectique, on n'est pas loin.
Une question très simple. N'y a-t-il pas une pensée dans les peintures rupestres du néolithique sans langage apparent?
Pardon, j'avais... Donatien, tu peux me traduire?
Oui, est-ce qu'il n'y a pas une pensée présente dans les peintures rupestres? Est-ce qu'il y a une pensée présente dans les peintures rupestres, les peintures de Lascaux sans langage?
Je ne crois pas. On n'a jamais trouvé la moindre indice. C'est pour ça que j'ai posé la question du sourd-muet, qui est le mystère des mystères. Je peux m'imaginer qu'il y ait une forme pré-linguistique du masque et de la danse, chargée de sens. Mais on ne peut pas en faire une paraphrase, ni une métaphrase, ni un précis. Elle reste solitaire, elle reste enfermée dans le silence. Mais il y a des très grands mathématiciens, vous le savez, qu'on définit presque comme autistes, qui refusent la parole. En mathématiques pures, il y a toujours un seul mot, let, L-E-T, le premier mot d'un papier, celui sur la solution de Fermat, un seul mot, et puis 220 pages de formule, let. Let qui veut dire tout simplement que soit, qui est le signal de départ. En philosophie, je ne crois pas. Mais on aimerait tellement savoir sur certains moments chez l'enfant très très jeune. L'ordre de perception, n'est-ce pas? La logique de l'enfant des jeunes. Et on va faire des découvertes importantes. Mais jusqu'à maintenant, je ne crois pas qu'il y ait une pensée pré-linguistique. Il y a là, Donatien.
Parmi les multiples définitions de la philosophie que l'on peut trouver dans le monde grec, il y en a une, d'ailleurs en partie commune à Platon et Aristote, qui fait de la philosophie à la fois l'exercice dialectique par excellence, mais également la forme la plus pure de la contemplation. Et une contemplation qui est en aucun cas aucunement passive, comme Aristote le montre très bien dans le Traité de l'âme, c'est une contemplation qui est toujours, d'une certaine façon, asymptotique avec l'acte pur, la pure energeia, cette sorte de co-appartenance idéale entre l'intelligibilité et la capacité d'analyse de l'entendement. N'y a-t-il pas là, au fond, une limite à la possibilité du relais ou du parallélisme entre poésie et philosophie? Jusqu'à quel point la philosophie peut-elle, à titre d'inéal, nourrir cette ambition?
Mais comment tracer cette limite? Je peux vous donner une page des investigations de Wittgenstein, et c'est un poème, c'est très clairement un poème. Comment tracer cette limite chez Saint Jean de la Croix, chez Héraclite? Je préfère penser, moi, à une limite qu'à une ouverture, une porte où peut-être ils vont se rejoindre. C'est ça qui rend la chose tellement difficile. Le problème de l'intuition, la vision nietzschéenne de l'éternel retour, un moment où il dit l'univers s'arrête autour de lui, on va dire. Les grands poètes, non, c'est totalement mystérieux. Comment on n'y sait rien? Non, on n'y comprend rien. C'est beaucoup mieux dire les choses simplement. À 6 ans, il y a un groupe d'écoliers qui ont l'âge 5 et 6 ans et leur femme, la dame professeure, les emmène pour un pique-nique en dehors de Berne et les fait asseoir devant un aqueduc. Et pour occuper les mômes, elle leur dit « Dessinez l'aqueduc. » Bon. Et elle passe derrière les enfants et dans un dessin, chaque pilier porte des chaussures et l'aqueduc est en marche. Et chaque aqueduc du monde, depuis ce jour, est en marche. Le petit s'appelait Paul Klee. 6 ans. Et l'aqueduc marche. Quelle est la synapse? Quel est le coup d'éclair? La neige et la foudre qui provoquent une chose qui transcende la logique en gardant l'armature, la musculature d'une certaine logique, mais qui est post-logique, qui est une expansion de la conscience humaine, subite, sans explication. Et aussi les magnifiques confusions, les grandes erreurs, n'ayant pas un sou, et l'enfant hurlait, la sœur de Bobby Fischer lui achète un petit jeu d'échecs plastiques, pour quelques sous, avec un manuel. Il avait 4 ans. Il commence à jouer contre lui-même et probablement était peu après le joueur le plus fort du monde. Mini, comprenez rien. Et il sort dans un parc et il voit 2 joueurs. Un choc terrible. Il s'effondre. Pourquoi 2 joueurs? Très belle question. Et à Reykjavik, quand il a joué contre Spassky pour le championnat du monde, j'ai eu le privilège d'y assister. Spassky m'a dit, le soir du 2e jeu, je suis foutu, je n'existe pas pour lui. Il joue mes coups avant moi. Mais précisément, parce que l'enfant n'avait jamais conçu qu'il fallait 2 personnes pour jouer la grande partie. Et il y a des fausses misreadings, c'est difficile à traduire, des fausses lectures d'une richesse immense, provocatrice, avec un héritage aussi riche que les découvertes. Il y a aussi toute la question en philosophie des grandes erreurs. Et peut-être on peut se quitter ce soir, à moi de vous poser à tous une question. Est-ce que la musique peut mentir? J'y reviendrai.